On a recensé quelques 300 versions de l'amour des trois oranges qui vont de l'Inde à l'Espagne et même aux Antilles, les versions des Antilles étant d'importation européenne. Bien sûr, c'est plutôt une histoire du bassin méditerranéen. Il y en a néanmoins une vingtaine de versions en Hongrie et 6 en France. Celle que je raconte part du texte recueilli par Achille Milien, M-I-2-L-I-E-N, dans le Nivernais à la fin du 19e siècle. C'est une des plus nordiques de toutes les versions. L'amour des trois oranges, la version écrite la plus ancienne qu'on connaisse, est celle de Basile, un conteur italien, paru en 1634. Bien sûr, c'est l'amour des trois oranges a servi de base à l'opéra de Prokofiev. En ce qui concerne l'hôpital, c'est plutôt une histoire que je raconte aux grands, 12 ans, 14 ans, 16 ans, qui sont sensibles à la poésie. Elle plaît aussi à des plus jeunes, mais pour les tout petits, elle est trop longue. J'aime beaucoup cette histoire personnellement, et je pense que c'est une histoire à raconter avant que je parte, de façon à laisser les enfants sur cette impression et les laisser poursuivre leurs rêves. Il est très net qu'à la fin de l'histoire, il y a des enfants qui partent dans le rêve, il leur reste quelque chose. Notamment les filles, bien sûr, puisqu'elles s'identifient à la princesse. C'est une histoire que je raconte sans faire beaucoup de gestes, à peu près comme je la raconte là dans la cassette. Le texte de base dont je me sers est dans le livre de Michel Simonsen, S-I-M-O-N-S-E-N, Jean le Teigneux et autres contes populaires français, édition de l'École des loisirs, 11 rue de Sèvres. Le couseur de sac. Il était une fois un pauvre couseur de sac qui vivait avec sa femme et 7 enfants dans une ville d'Orient, une grande ville. Dans cette ville, ce que l'on voit tout d'abord, c'est le palais du pacha, le gouverneur, un palais tout en marbre, avec des coupoles d'or, des jardins pleins de fontaines, des oiseaux de 1000 couleurs, des fleurs, de l'herbe toujours verte, ce qui est une rareté dans un pays sec et chaud. À côté du palais du gouverneur, il y a le quartier des riches, avec de grandes belles avenues bordées d'arbres, des palmiers, des belles maisons, des bassins, des fontaines, mais moins que dans le palais du gouverneur, des jardins. C'est là qu'habite les marchands, les médecins, les avocats, les notaires. Et puis, il y a le quartier des pauvres. Ah là, plus d'arbres, plus d'avenues larges, non, des petits sentiers pleins de poussière, des petites cabanes de bois, de torchis, c'est-à-dire de boue séchée, avec un toit en tôle ondulée. Un toit sur lequel le soleil tape, on se croirait dans un four quand il fait chaud, et quand il pleut, on a l'impression qu'on est dans la caisse d'un tambour sur lequel les baguettes tapent de toute leur force. C'est là qu'habitait notre couseur de sac. De l'autre côté du fleuve, un grand fleuve qui divise la ville en deux, et que l'on passe sur un pont de pierre, il y a la partie de la ville où on travaille. Là se trouvent les boutiques. Le quartier des boutiques, avec des petites rues très étroites où Il n'y a la place que pour un âne pour passer. Et quand l'âne passe, chargé d'un sac sur son dos, les gens sont obligés de rentrer dans les boutiques. Oh, des toutes petites boutiques, 2 mètres de large, 5 mètres de profondeur. Et les rues sont couvertes à cause du soleil pour se protéger. Il y a d'abord la rue des bouchers. Ça sent mauvais. Il y a de la viande, il n'y a pas de frigidaire dans ces pays-là. Des mouches. Et puis, la rue des herbes. La rue des fines herbes, où l'on sent plein d'odeurs extraordinaires. Du thym, de la coriandre, 1000 odeurs curieuses. Et puis, la rue des teinturiers. Là, les odeurs sont mauvaises, mais les couleurs des écheveaux de laine qui viennent d'être teintes sont si vives que l'on croirait voir l'arc-en-ciel descendu sur la terre. La rue de ceux qui travaillent le cuivre, qui font des grands plateaux, et on entend tang, 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 les coups de marteau sur les feuilles de cuivre, et ils font des choses magnifiques. Et puis, le quartier, des gens qui travaillent, mais des petits artisans qui travaillent pauvrement. Et dans la plus pauvre maison de ce pauvre quartier, dans la cave, parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer, un atelier au rez-de-chaussée, travaillait notre couseur de sac. Du matin au soir, très tôt le matin, très tard le soir, il cousait des sacs à pommes de terre. C'était très mal payé et il fallait qu'il fasse 30 sacs par jour pour arriver à gagner sa vie. Oh, gagner sa vie, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Qu'est-ce qu'il rapportait chez lui le soir? Du pain sec. Un pain pour chacun de ses enfants, un pain pour sa femme, un pain pour lui. 9 pains ronds et plats comme des galettes, comme on les vend là-bas dans ce pays-là. Et notre couseur de sac, néanmoins, c'était un homme qui chantait. Il chantait du matin au soir, et on pourrait presque dire du soir au matin. Il chantait chez lui, il chantait sur la route, il chantait dans son atelier, et il chantait toujours la même chanson.
C'est moi qui l'ai bouché, 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 c'est moi qui l'ai bouché.
Il ne s'arrêtait que quand il avait la bouche pleine parce qu'il était en train de manger, ou que quand il dormait. Vous allez me dire, et les voisins? Eh bien, les voisins, ils étaient habitués. C'étaient de braves gens, et ils ne protestaient pas. Il était connu dans toute la ville. Et ce qui gênait les gens, c'était curieusement quand il s'arrêtait de chanter, parce que tous les gens disaient « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on entend? Ah oui, on entend qu'on n'entend plus chanter le couseur de sac. » Et puis, quelques minutes après, il avait fini son déjeuner et il reprenait sa chanson.
C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché.
Un jour, le riche pacha, le gouverneur, eut affaire de l'autre côté du fleuve, dans la partie de la ville où travaillaient les gens. Et en revenant chez lui sur son cheval blanc, il entendit de loin cette chanson.
C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché.
Tiens, c'est curieux, mais il n'avait pas le temps de s'arrêter et de voir d'où venait la chanson. Il rentra donc au palais. 2 ou 3 jours plus tard, il avait du temps et il décida d'aller voir le chanteur. Il retraversa le fleuve sur le grand pont de pierre. Il traversa le quartier des gens qui travaillent jusqu'à la pauvre maison où travaillait le couseur de sac. Il descendit les marches de l'escalier qui menait à la cave. Il baissa la tête pour passer la porte et il entra. Le couseur de sac était là, toujours en train de chanter. Il se leva, tout confus, en voyant entrer le pacha. « Ah, monseigneur, excusez-moi, Je travaille. Mais oui, mon ami, tu travailles. C'est bien. Mais dis-moi, cette chanson, on m'a dit que tu chantes toujours la même chanson et que tu la chantes tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, mon Seigneur, cette chanson, c'est une longue histoire. C'est mon histoire à moi. C'est ma destinée. C'est mon peu de chance. Eh bien, raconte-la-moi, cette histoire. Eh bien, voilà, mon Seigneur. Une nuit, j'étais couché dans mon lit, à côté de ma femme, et je dormais. Et j'ai fait un rêve. Du moins, je crois que c'était un rêve, car ce rêve était tellement vivant et je me le rappelle tellement bien que je me demande si ça n'était pas la réalité. Et à quoi rêvais-tu? Que rêvais-tu? Eh bien, j'étais dans une grande plaine, très étendue. Et il y avait dans cette plaine des milliers de sources. Des sources, des fontaines, les unes jaillissantes, les autres plus petites. Et au milieu de cette grande plaine, il y avait un homme. Un homme vêtu d'une grande cape, avec un grand capuchon qui descendait assez bas et qui cachait son visage, un peu comme un berger. Et j'étais tout intrigué par ces sources mystérieuses, par cet homme dont on n'apercevait pas le visage. Et je lui dis, « Berger, berger des sources, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces sources ?» Et il me dit, « Chacune de ces sources, c'est la chance, la destinée d'un homme. Tu vois de très vastes bassins, au milieu desquels il y a un jet d'eau qui jaillit presque jusqu'au ciel. Oh, il n'y en a pas beaucoup, deux ou trois peut-être. Ça, c'est les sources, la chance des rois. Tu en vois d'autres, avec un bassin de bonne taille, avec de l'eau qui bouillonne au milieu. C'est la chance des riches. Et puis tu en vois d'autres, oh, qui ne sont pas bien grandes, comme une cuvette avec un petit filet d'eau qui coule. C'est la chance des pauvres, ils n'en ont pas beaucoup. » Et moi je lui ai dit, mais berger, berger des sources, et ma source à moi, où est-elle? Montre-la-moi, s'il te plaît. Et alors, il m'a conduit à l'écart, vers, oh, un tout petit creux, pas plus grand qu'un bol, qu'une tasse, dans lequel il y avait un tout petit peu d'humidité et un petit filet d'eau qui coulait, même pas un filet, des gouttes qui coulaient d'un petit tuyau de rien du tout. Ploc, 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 ploc. Il m'a dit, voilà ta source, ami. Et il m'a laissé. Et moi j'ai regardé cela et je me suis dit, c'est pour cela que je suis si pauvre. C'est pour cela que je n'ai pas de chance. Mais le tuyau, il doit être à moitié bouché. Si je le débouchais, peut-être que j'aurais quelque chose de mieux. Plus d'eau, plus de chance. Alors, j'ai pris un morceau de bois qui traînait par terre et je l'ai enfilé dans le tuyau. J'ai fourragé dans le tuyau pour le déboucher. Mais le morceau de bois était pourri. Il s'est cassé. Il a bouché presque complètement le tuyau. Ah, ça ne coulait plus ploc, 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 ni même ploc, ploc, non, ploc, 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 ploc. Alors je me suis dit, mais c'est de ma faute, mais c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. Mais comme je chantais cela, cela a réveillé ma femme qui dormait à côté de moi. Elle m'a secoué. Elle m'a dit, mais tu es fou. Que fais-tu? Que chantes-tu? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Et moi, je n'ai pas voulu l'attrister en lui disant ce qui était arrivé. Et je lui ai dit, je ne sais pas, j'ai dû faire un rêve, mais je l'ai oublié. Pour de vrai, je ne l'ai pas oublié, ce rêve. Et depuis, je chante toujours,
c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché.
Parce que, comme ça, je me rappelle à moi-même que si je n'ai pas de chance dans la vie, c'est en partie, en grande partie, par ma propre faute. Et puis, il y a aussi une autre raison. Quelle autre raison, ami ? Demanda le Pacha. Eh bien, je me dis que peut-être un jour, le berger des sources dont j'ai rêvé, peut-être qu'un jour, s'il existe pour de vrai, il m'entendra et qu'il fera ce qu'il faut pour que j'aie plus de chance. Au revoir, ami, dit le Pacha. Ton histoire est belle, mais tu as raison, elle est triste. Et le Pacha rentra tout songeur dans son palais. Ce Pacha était un homme bon. Il était puissant, mais il lui arrivait d'utiliser son pouvoir pour aider les pauvres, les déshérités. Il réfléchit à cela et se dit, n'est-il pas possible de faire quelque chose pour un homme si pauvre, si chargé de famille, qui a si peu de chance? Et quelques jours après, le couseur de sac entendit frapper à sa porte, dans son atelier. Entrez, cria-t-il. Et deux serviteurs du Pacha entrèrent, portant un plateau couvert d'une serviette blanche, sous laquelle il y avait quelque chose. « Un cadeau de la part du Pacha, » dirent-ils. « Merci, » cria le couseur de sac. Et déjà, les deux serviteurs étaient repartis. Le couseur de sac travaillait. Il avait perdu du temps avec le Pacha, et il n'avait pas pu coudre ses 30 sacs ce jour-là. Il essayait de rattraper son retard. Il avait bien envie de soulever la serviette pour voir le cadeau, mais le travail d'abord. À la fin de la journée, quand il eut fini son 30e sac, il souleva la serviette. Sur le plateau, il y avait une tourte. Une tourte, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un petit peu comme une tarte, avec un fond de pâte, des bords plus hauts qu'une tarte. Et sur ce qui est dans la tarte, sur la pâte, il y a un couvercle de pâte. On ne peut pas voir ce qu'il y a. Il y a des tourtes différentes. Il y a des tourtes aux légumes, il y a des tourtes aux fruits, et il y a des tourtes à la viande. Et le couseur de sac se dit, mon Dieu, une tourte, c'est merveilleux, et qui vient des cuisines du Pacha. Jamais je n'ai rien mangé d'aussi bon, et mes enfants donc. Oh, quelle joie pour eux quand je vais la rapporter ce soir. Nous allons tous manger cela ensemble. Oui, mais ce n'est pas raisonnable. Une tourte, c'est une nourriture de riche. Je ferais mieux de l'échanger contre du pain. J'aurais davantage de pain rassis ce soir à rapporter à mes enfants. Ils pourraient pour une fois se remplir le ventre de pain rassis. Et le couseur de sac, quand il repartit, passa chez le boulanger. Dans ce pays-là, les boulangers ne font pas simplement du pain et des gâteaux, ils cuisent aussi des plats divers pour les gens, et les gens viennent acheter des plats. Le couseur de sac apporta la tourte au boulanger et lui dit, « Voilà une tourte que le Pacha m'a envoyée, elle vient de ses cuisines. Que me donneras-tu en échange ?»« Que veux-tu ?» lui dit le boulanger. « Je voudrais... du pain, bien sûr, du pain rassis. Eh bien, dit le boulanger, je te donnerai 2 fois plus de pain ce soir. Tu pourras emporter 9 et 9, 18 pains rassis. Oh ! Le couseur de sac était plein de joie. Et il repartit, emportant ses 18 pains rassis. Il pensait que ce soir-là, à la maison, on fit bombance. Double ration pour chacun. Pendant ce temps-là, le boulanger se dit, cette tourte, Je vais pouvoir la vendre à un bon prix, mais à quoi est-elle? Aux courgettes? À la citrouille? Aux abricots? Aux oranges? À la viande de mouton? Je vais voir. Il prit une fourchette et appuya sur le couvercle. Les dents de la fourchette passèrent à travers le couvercle, mais quelque chose de dur les arrêta en dessous. Tiens, il essaya d'appuyer plus fort. Rien ne venait. Alors il souleva délicatement le couvercle et il aperçut que cette tourte était une tourte aux pièces d'or. Il y avait 100 pièces d'or à l'intérieur. Le boulanger ne dit rien. Il cacha les 100 pièces d'or dans sa cave et il mangea tout seul la croûte. Le pacha, dans son palais, s'étonnait. C'est curieux quand même, j'ai envoyé 100 pièces d'or dans une tourte à ce pauvre couseur de sac. 100 pièces d'or, c'est une fortune pour lui. Il pourrait quand même venir me remercier, même si cela lui faisait perdre une certaine partie de sa journée de travail. Mais rien. Alors, le pacha, qui était un homme bon et modeste, réfléchit et se dit, « Mais 100 pièces d'or, il est si pauvre. Il trouve peut-être que je n'ai pas donné assez. » Et le lendemain, deux serviteurs du pacha arrivèrent chez le couseur de sac, portant un plateau encore plus grand que la première fois, qui était couvert d'une nappe blanche. « De la part du pacha, » dirent-ils. « Merci, merci !» cria le couseur de sac. Et le couseur de sac passa toute sa journée à coudre, à coudre, à coudre à force devant ce grand plateau couvert d'une nappe blanche et se disant « Que peut-il y avoir là-dessous ?» Quand il eut fini son 30e sac, à la fin de la journée, il souleva la nappe. Sous la nappe, il y avait une oie bien grasse, bien rôtie, au ventre rebondi. Et le couseur de sac se dit, « Merveille, une oie, de la viande !»« Voilà qui va profiter à mes enfants qui n'en mangent jamais, et moi qui n'en ai jamais mangé non plus, et ma pauvre femme qui a tant de travail à la maison. » Ah, et nous en aurons pour plus d'un jour. Et puis il réfléchit. De la viande, une oie, de la volaille. Mais c'est une nourriture de riche. C'est du gaspillage. Non, je vais aller chez le boulanger et je lui demanderai de me donner davantage de pain. Mais, si, je vais le faire. Je vais lui demander de me donner moitié de pain frais et moitié de pain rassis. Il paraît que c'est si bon le pain frais. Et le soir, il alla chez le boulanger. Le boulanger, comme vous pouvez bien le penser, quand il lui dit que cette oie venait des cuisines du pacha, jaugea le ventre rebondi, se dit « Combien de pièces d'or peut-il y avoir là-dedans ? Beaucoup plus que la première fois. » Et il dit « Eh bien, je te donnerai 18 pains frais et 18 pains rassis. » Oh, merveille! Il prêta même une petite charrette au couseur de sac pour que celui-ci pût rapporter tous ses pains à la maison. Et le soir et le lendemain, on ne mangea que du pain frais. Et puis, mon Dieu, ensuite on mangea le pain rassis, mais on en avait toujours d'avance. Le pacha, lui, dans son palais, s'étonnait toujours de ne pas avoir de remerciements. « Cette fois-ci, je lui ai donné 300 pièces d'or. Il pourrait bien venir me remercier. » Alors, le pacha remonta sur son cheval et vint chez le couseur de sac. Il entendit de loin la voix qui chantait «
C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. »
Il descendit. « Ah, monseigneur, dit le couseur de sac, excusez-moi, monseigneur, je ne vous ai pas remercié pour ces cadeaux somptueux. » Oui, tu as vu, dit le pacha. Oui, une tourte et ensuite une oie grasse. Oui, dit le pacha, mais qu'en as-tu fait? Eh bien, monseigneur, j'ai pensé que c'était une nourriture de riches, que c'était trop beau pour nous. Je les ai échangés, la première contre du pain rassis, la deuxième contre du pain rassis et du pain frais, monseigneur, chez le boulanger. Et quel... Ah, vraiment, ma famille se régale depuis, ma famille, mes enfants ont les joues bien pleines, ma femme reprend des forces, moi aussi, monseigneur. Mais tu n'as pas ouvert la tourte ou l'oie pour... Non, monseigneur, je ne voulais pas les abîmer. Le boulanger ne me les aurait pas achetés si cher. Ah oui, dit le pacha. Au revoir, mon ami. Et le pacha rentra tout songeur chez lui. Comment faire pour être sûr qu'il trouve les pièces d'or que je vais lui donner? Il réfléchit, puis il appela deux de ses serviteurs. « Voici un sac, leur dit-il, un sac plein de 500 pièces d'or. Demain matin, ou plutôt à la fin de cette nuit, vous irez jusqu'à l'entrée du pont, le pont qui sépare la ville où l'on habite de la ville où l'on travaille. Ce pont, tous les matins, le couseur de sac est le premier à le traverser. Vous poserez au milieu du pont le sac plein de ses 500 pièces d'or. Vous verrez arriver le couseur de sac, vous attendrez qu'il ait pris le sac et vous viendrez me dire ce qu'il a dit. Bien, monseigneur. Et voici qu'à la fin de la nuit, les deux serviteurs s'embusquent près du pont. Et ils entendent de loin le couseur de sac qui arrive en chantant.
C'est moi qui l'ai bouché, 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 c'est moi qui l'ai bouché.
Et il arrive devant le pont. Et à l'entrée du pont, il s'arrête. Et il dit, ah, ce fleuve, ce pont, je les ai traversés des milliers de fois, en allant à mon travail le matin, en en revenant le soir. Je connais le trajet par cœur. Je pourrais le faire les yeux fermés. Il ferme les yeux et il marche. En chantant.
C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché.
Et bien sûr, il fait un pas par-dessus le sac sans s'apercevoir qu'il était là. Quand il eut traversé, les deux serviteurs coururent rechercher le sac pour qu'un voleur ne le prît pas et le ramenèrent au pacha. Et le pacha se dit, « Mon Dieu, est-ce possible ?» Et là, il y a deux fins à cette histoire. La première fin, c'est une fin triste. Le pacha se dit, il n'est pas possible de faire le bonheur de quelqu'un malgré son manque de chance. Et il admira le pouvoir d'Allah, Dieu. Et la deuxième fin, c'est que le pacha convoqua le boulanger, fit fouiller sa cave, le fit avouer, reprit les pièces d'or et les donna au couseur de sac. Le couseur de sac avec cet argent, ce trésor, 100 plus 300 plus 500, 900 pièces d'or, s'acheta une grande épicerie. Et il vécut richement. Et même, comme son épicerie marchait très bien, il embaucha un vendeur qui ne fut autre que le boulanger voleur, dont la boulangerie avait brûlé. Cette histoire, je l'ai apprise d'Annie Kiss, K-I-2-S, qui est une conteuse professionnelle. Je la raconte en général avec uniquement la fin gay, plutôt à des grands. Il m'est arrivé quand même de de la raconter avec la fin triste, mais je pense qu'elle est assez peu appropriée à des enfants dont la destinée est sombre.